Bonsoir, le gouvernement congolais vient d'actualiser les mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus. Cette décision est contenue dans un communiqué rendu public dimanche dernier par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement de la RDC. Patrick Muyaya a précisé que ces mesures ont été prises à la suite d'une légère progression de cas de coronavirus en RDC, à l'apparition du nouveau variant Omicron et à la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde. Ces mesures visent à limiter l'importance des cas infectés, limiter l'importation des variants dangereux et augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles, a soutenu le porte-parole du gouvernement. Comment analysez-vous ces dispositions actualisées? Sont-elles efficaces pour atteindre les objectifs visés, mais aussi mettre la RDC à l'abri du variant Omicron? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Dan Bomboko, médecin et conseiller médical du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention. Dan Bomboko, bonsoir.
Bonsoir.
Mais aussi Joseph Sambi, bonsoir. Joseph Sambi, vous êtes professeur et ministre provincial en charge de la santé du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et enfin, Jonas Tchombela, coordonnateur national de l'organisation citoyenne La Nouvelle Société Civile du Congo. Jonas Tchombela, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Je le disais en introduction, limiter l'importation des cas infectés, limiter l'importation des cas dangereux, augmenter la vaccination dans les populations cibles sont là les trois objectifs des mesures prises par le gouvernement de la RDC le week-end dernier. Le gouvernement souhaitant aussi prévenir l'apparition du nouveau variant Omicron survenu en Afrique australe, mais aussi la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde. Les détails dans ce papier de Paul Matendo, dans la voix de Bibi Mukonkole.
Parmi les mesures prises, le port du masque obligatoire est strict dans les espaces publics, les lieux de déroulement des activités sportives et festives, les lieux des cultes, les banques et autres. Ce communiqué précise qu'il s'agit des masques fabriqués en tissu ou en matière jetable. Autre dispositif, le renforcement du contrôle à l'entrée de chaque édifice impliquant un contrôle de température. La même source indique que tout accès sur le territoire national ou tout voyageur doit présenter une attestation médicale qui confirme le résultat PCR COVID-19 négatif. Le couvre-feu est renforcé de 23h à 4h du matin, mais les bars, terrasses, discothèques et boîtes de nuit peuvent fonctionner normalement dans le strict respect des gestes barrières, conclut le gouvernement.
Dan Bomboko, conseiller médical du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans les nouvelles mesures, s'il y a de la nouveauté, et qu'est-ce qui pousse le gouvernement à les mettre en pratique ou à les exiger en ce moment précis?
Il faut d'abord dire qu'il était vraiment nécessaire et opportun pour le gouvernement de pouvoir renforcer ou réactualiser ces mesures à cause de deux choses. Premièrement, nous avions constaté une baisse de la vigilance au niveau du pays et cela a été démontré par la surveillance épidémiologique. En comparant la semaine 47 et la semaine 48, nous avons eu une augmentation de 249% du taux d'incidence, donc les taux de les nouveaux cas. Donc en moyenne, avant la semaine 46 jusqu'à la semaine 48, on enregistrait à peu près 30 nouveaux cas par jour. Mais à la semaine 48, nous avions enregistré une moyenne de 107 cas par jour. Donc c'est cette augmentation exponentielle des nouveaux cas qui a emmené le ministère de la Santé à pouvoir réagir et en répondant efficacement avec les mesures que vous avez énoncées dans votre introduction.
Mais qu'est-ce qui explique, docteur Dan Bomboko?
Oui.
Qu'est-ce qui peut alors expliquer cette relance de cas de coronavirus et surtout en ce moment-ci?
Ben, c'est ce que je disais, c'est que c'est normalement on note une baisse de la vigilance au niveau de la population. Donc les couvre-feux n'est presque plus respecté, les gens portent les masques moins que d'habitude et les portent pas de la bonne façon. Les rassemblements, vous voyez bien que les fêtes, les réunions de plus de 20 personnes sont maintenant monnaie courante. Donc toutes ces mesures-là qu'on avait, qui ont été réactualisées, souffrait un peu d'une bonne observance au niveau de la population.
Non, pas que nous doutons des explications que le gouvernement donne, mais on voudrait quand même que au sein de l'opinion ne persiste pas des inquiétudes qui sont observables et entendues dans les débats. On voit bien que vous dites que au bout d'une semaine ou quelques semaines, il y a eu changement en augmentant des données, mais quand on regarde les raisons que vous avancez, c'est le non-respect des mesures barrières, et on se rend compte que s'il y a non-respect des mesures barrières, ça fait en tout cas bien, bien trop longtemps que ces mesures barrières ne sont pas respectées. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que dans la durée, on voit que les gens n'ont pas respecté les mesures depuis bien longtemps, mais dans les faits officiels, on ne brandit que les faits de quelques semaines seulement?
Non. La courbe d'augmentation des cas est exponentielle depuis un moment, mais la situation était encore sous contrôle. Donc il n'y avait pas encore une augmentation exponentielle des cas comme on l'a constaté entre la semaine 47 et la semaine 48. Effectivement, les investigations sont en cours puisque c'est récent. Je vous rappelle que la semaine 48 va du 29 novembre au 5 décembre. Donc nous sommes effectivement en train de vouloir, à partir des récos et des alertes, savoir et retracer un peu ce qui s'est passé. Mais déjà, en amont, puisqu'on avait déjà commencé à regarder cette courbe monter, et là, on pouvait dire qu'il y avait une relation statistiquement significative entre la baisse des mesures barrières et l'augmentation des cas.
Est-ce que la vraie raison ne serait pas plutôt le nouveau variant Omicron et quelques autres variants peut-être devenus dangereux? Ou encore, la vraie raison ne serait-elle pas un peu le mimétisme qu'on a tendance à brandir devant le gouvernement congolais, de toujours suivre quand il y a un mouvement vers l'Occident, les Africains suivent et la RDC avec?
Non, nous n'avons pas encore objectivé les variants Omicron dans notre pays, mais il faut dire que effectivement, suite à la découverte de ces variants le 9 novembre en Afrique du Sud, c'est un variant qui, effectivement, j'allais le dire, est très virulent, donc qui se transmet très rapidement. Nous sommes effectivement en train de faire des analyses pour voir les cas positifs que nous avons actuellement, si quel variant. Donc, on est en train de faire les études de séquençage pour élucider de quel variant il s'agit, mais nous n'avons pas encore objectivé les variants Omicron dans le pays. À l'heure actuelle, les investigations continuent et nous serions certainement informés d'ici quelques heures par le laboratoire national INRB quant à ça.
Conseiller médical du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dan Bomboko, puisque tout le monde parle du variant Omicron ces jours-ci, est-ce qu'on peut avoir un peu l'identité de ce variant Omicron? La RDC peut-elle vraiment craindre ce variant? Et est-il aussi dangereux qu'on le présente? Parce qu'on a appris avec l'habitude que chaque variant qui arrive est présenté comme le plus mortel de la Terre.
Alors, il faut dire il y a une spécificité avec ces variants, parce que ces variants, semble-t-il, d'après les informations que nous avons actuellement, c'est un variant qui s'est développé chez les personnes immunodéprimées, donc, c'est-à-dire les personnes porteurs du virus VIH. Et ça a été découvert à la suite d'une longue exposition de ces personnes ou d'une longue période de viabilité du coronavirus au sein des organismes de ces personnes. Puisque plus le virus reste longtemps dans le corps humain, plus il se réplique. Et c'est au moment où il fait des réplications qu'il y a des erreurs des réplications. Donc vous comprenez qu'un virus, c'est une protéine qui doit se multiplier et il y a des erreurs de réplication et c'est ces erreurs de réplication qui fabriquent des nouveaux variants. Et étant donné que ces variants-là, semble-t-il, a été répliqué chez une personne immunodéprimée, donc il est resté plus longtemps en contact au sein d'un organisme et il a développé des aptitudes à qui lui ont rendu un peu plus résistant par rapport au traitement, par rapport au vaccin et qui lui ont aussi donné la capacité de se transmettre beaucoup plus rapidement. C'est ce qui fait que ces variants semblent être inquiétants pour la santé publique.
Merci Dan Bomboko. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, notamment pour voir comment les mesures qui sont assez importantes, hein, édictées le week-end dernier, pourront ou seront appliquées pour être respectées au sein de la population. Jonas Tombela, bonsoir, vous êtes avec nous?
Bonsoir.
Vous êtes coordonnateur national de l'organisation citoyenne La Nouvelle Société Civile du Congo. Alors, ce n'est pas une première fois que le gouvernement prend des mesures contre le coronavirus en RDC et à chaque fois, ça a donné lieu à des analyses parfois diverses. Alors, les nouvelles mesures proclamées le week-end dernier par le gouvernement congolais, qu'est-ce que ça suscite comme réaction chez vous?
Oui, d'abord, nous pensons que gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'il y a danger en train de guetter la population, le gouvernement a tout intérêt de prendre des mesures de ce type-là. La question que nous posons, nous avons suivi un des collaborateurs tout à l'heure, évoqué qu'il y a eu baisse de la vigilance au niveau de la population. Il y a eu également baisse de la vigilance au niveau des gouvernants. Parce que c'est à partir dès que l'impulsion doit être donnée à ce niveau-là, il y a eu aussi baisse de la vigilance et nous sommes tombés dans la routine au point où quand on entend qu'il y a une variante très dangereuse qui est à nos portes et on recourt à ce type de mesures. Et il y a aussi l'absence d'un mécanisme de suivi rigoureux et régulier. Chaque fois il y a baisse de ces mécanismes, on les relance et du coup ce rabais, ce qui fait que nous revenons sur la même situation presque de la même manière sans tirer des leçons de ce qui peut être comme danger pour la nation. Donc à notre niveau, nous saluons les mesures, ce qu'il faut aussi, il faut les sensibiliser, il faut sensibiliser la communauté, la sensibilisation au niveau de ceux qui dirigent le programme de riposte sur cette question n'est pas assez très visible. Elle se déroule généralement dans des salles climatisées. Aujourd'hui même, il y a une activité qui est en train de se passer à Kinshasa. On est en train de consulter la société civile pour voir dans quelle mesure ils peuvent participer à la sensibilisation pour la vaccination, la vaccination de la population. Voilà. Autant de questions au niveau du gouvernement, par moment, sont prises aussi avec légèreté, j'allais dire, si vous me passez le terme, mais au niveau aussi de la population, nous avons notre responsabilité parce qu'ils ont intérêt de sensibiliser la communauté tout le temps. Et la population doit prendre conscience. Les leaderships au niveau des églises, les vieilles habitudes sont revenues. Dans nos mouvements de transport, vous n'avez qu'à circuler dans la ville du Kinshasa, où nous sommes, vous verrez combien les gens sont entassés dans un bus. Et tout ce que c'est dit là, c'est comme s'il n'y avait pas de mécanisme réel de suivi pour accompagner ces décisions combien salvatrices au niveau de la communauté. Voilà un peu ce que nous pensons. Les objectifs qui sont visés par ces mesures sont des objectifs réels. C'est la vie de la population qu'il faut préserver. Mais comment le préserver avec des théories qu'on ne sait pas mettre des mécanismes de suivi rigoureux et réguliers? Ça reste une inquiétude au niveau de la communauté.
Jonas Tshombela, on a constaté que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a objet à s'inquiéter, l'apparition d'un nouveau variant ou une augmentation de ces cas dans le monde ou même dans notre pays, les gens s'agitent. Mais est-ce que à ce jour, le moment n'est-il pas venu de constater que, un peu comme partout dans le monde, on devra certainement vivre avec cette maladie au jour le jour? Mais est-ce que le moment n'est pas justement venu de plutôt, au lieu d'utiliser les méthodes qui étaient celles des premiers temps, 2019-2020, utiliser plutôt les méthodes qui nous permettront d'intégrer cette maladie dans la vie au quotidien et par exemple de commencer soit régulièrement à consommer des aliments qui aident à prévenir sans aucune intoxication ce genre de maladie, des aliments donc sans risque, ou plutôt de prendre des mesures médicales, hein, c'est une réflexion que nous faisons ensemble, des mesures médicales, mais dont les effets ne sont que préventifs dans le corps pour éviter justement de connaître des nouveaux cas et l'expansion de la maladie.
Mais c'est le travail de tous nos scientifiques. Ils doivent nous donner des directives. Il appartient aux scientifiques de se pencher, de donner des directives sur le plan alimentaire. Mais je pense que nos gestes, les gestes barrières doivent devenir notre mode de vie. Comme vous le dites bien, nous pouvons apprendre désormais à vivre avec, mais tout en appliquant ce geste barrière. Parce que dans ce geste, il y a la vie. Il y a un moyen de prévenir les dangers qui nous guettent personnellement et guettent aussi les autres. Donc ce geste doit devenir notre mode de vie au quotidien. Et je pense même qu'il faut aller loin avec ça, même dans les écoles, les universités, essayer d'intégrer ça dans des cours d'éducation civique, intégrer ça même dans les églises, voir dans quelle mesure ça doit devenir notre mode de vie. Avoir lavage à main, le savon tout le temps, le gel avec nous, à tout moment avoir notre masque parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver dans les minutes qui suivent. Ça doit devenir notre mode de vie. Surtout nous les Africains qui n'avons pas le moyen de faire face efficacement à cette pandémie, il nous appartient de nous en tenir aux gestes de prévention qui peuvent nous sauver la vie et sauver les autres. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut travailler. Il faut impliquer tous les acteurs. Normalement, dans notre société, ce qui est dangereux, c'est quoi? Quand il y a le moyen, les voies qui peuvent accompagner sont souvent oubliées. Et on va prendre ses nièces, ses consorts, et c'est là qu'on va mettre pour tromper la vigilance. On ne peut pas jouer avec les vies humaines à ce niveau-là. Donc il faut prendre les hommes, les femmes qu'il faut pour accompagner la sensibilisation très forte au niveau de la grande masse pour que ça devienne notre vie des leaders de l'Église, de la société civile, des partis politiques. C'est une lutte multisectorielle avec tous les acteurs qui doivent être impliqués. Et ça doit faire l'objet d'un état de lieu et la République peut apporter une solution peut-être qui peut être aussi combattue par d'autres nations. Tout ça relève de la responsabilité de l'État. Quand bien même les victimes, c'est nous la population, ça relève aussi dans une certaine mesure de notre responsabilité. Mais quand on n'a pas l'information qu'il faut, il sera très difficile qu'on arrive. Nous avons vécu ici à vivre avec la pandémie de sida et la multiplication de campagnes a aidé aux gens à interroger certains gestes dans leur vie au quotidien. Et c'est ça qu'il faut faire pour cette nouvelle pandémie très dangereuse qui fait paniquer le gouvernement tout le temps quand il y a une nouvelle variante qui vient de l'autre côté.
Merci Jonas Tchombela. Joseph Sambi, professeur et ministre provincial en charge de la santé du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Votre province est l'une des provinces où on compte beaucoup de cas de personnes ayant attrapé le coronavirus. Avant même d'entrer dans les détails, les échanges du sujet spécifique à ce soir, pouvez-vous quand même nous donner un peu une carte postale de cette maladie dans votre province? Comment se présente le coronavirus à ce jour, les cas enregistrés et comment vous êtes en train de vous prendre pour gérer cela?
Ok, merci. J'aimerais partager comme d'habitude les réalités de notre province. Le Haut-Katanga est l'une des provinces vulnérables de par sa situation géographique. Et nous partageons 1600 kilomètres de frontière avec la Zambie. Et à ce jour, le Haut-Katanga a un cumul de 4507 cas. Alors, nous restons la troisième province la plus touchée après Kinshasa et le Nord Kivu. Et ce qu'il faut noter est que sur les trois dernières semaines épidémiologiques, nous constatons une montée des cas, puisqu'à la 46e semaine, nous étions à 7 cas, à la 47e, nous avons eu 10 cas, et à la 48e semaine, nous avons 37 cas, dont 20 cas, 26 cas importés, dont 20 cas détecté chez les voyageurs en provenance de l'Afrique australe. Donc, nous restons une province vulnérable et nous saluons en passant les mesures prises par le niveau central pour renforcer la lutte. Nous pensons qu'il faut une bonne coordination, une bonne répartition des ressources matérielles et financières. Donc les ressources matérielles, c'est qu'il faut doter les provinces vulnérables comme la nôtre en équipement de protection individuelle, mais aussi des ressources financières nécessaires à faire face à cette nouvelle vague, puisque tous les pays de l'Afrique australe constituent la zone rouge actuellement en matière de Covid, surtout en rapport avec le nouveau variant Omicron. Et donc ici, j'aimerais faire appel à tous les services œuvrant aux frontières de renforcer de manière très, très appuyée la surveillance aux frontières, le contrôle sanitaire, puisque nous constituons pour le moment le bouclier pour le reste du pays. Certes, tout le monde entier a déjà eu à détecter le nouveau variant, donc ça peut venir de Chine, tout comme de Goma ou de partout, mais moi je parle spécifiquement de notre province de Haut-Katanga, qui à ce jour reste vulnérable avec les mouvements pendulaires à nos frontières, notamment Kasumbalesa, Mokambo, Sakania et tous les huit postes frontaliers de notre pays.
Joseph Sambi, est-ce que cette annonce du gouvernement a constitué vraiment une nouveauté pour vous, parce qu'on imagine bien que, en principe, ces mesures sont d'actualité depuis les premiers temps de la maladie et lors des dernières annonces et rappels du gouvernement. Est-ce que c'était des mesures sur lesquelles vous veilliez, que vous pratiquiez déjà pour lutter contre cette maladie, ou cette annonce du gouvernement vous donne maintenant la possibilité de pouvoir les mettre en pratique?
Non, mais nous avons toujours mis en pratique ces mesures. Il y a une nouveauté, puisque là, au niveau de l'article 14, on donne la latitude au gouverneur de province d'adapter et de prendre des mesures consécutives, n'est-ce pas, aux mesures prises par le niveau national, adaptant ainsi.
Ce n'était pas déjà le cas? Ce n'était pas déjà le cas, ça devrait être le cas déjà, non? La maladie a plus de 2 ans d'existence, ça devrait déjà avoir été le cas depuis au moins une année, en principe, non?
Mais nous disons que nous, comme province, nous appliquons ces mesures. Et nous voulons ici rappeler que tout ce que nous demandons, c'est de prendre en compte la vulnérabilité de certaines provinces, puisque les provinces ne sont pas autonomes, qu'on le pense. Il y a aussi, au-delà de notre volonté comme province à appliquer ces mesures, nous avons besoin de cette impulsion nationale qui est faite, et nous avons besoin qu'une redistribution des ressources soit bien faite au regard de la vulnérabilité et du poids économique que la province présente, puisque la gestion des frontières relève du niveau national, et il y a le programme national de l'hygiène aux frontières, qui est un service parmi tant d'autres qui œuvrent aux frontières. Et tout ce que nous voulons, c'est que l'implication de tous, puisque la liste étant multisectorielle, nous avons besoin qu'au-delà de la promulgation de ces mesures, que les services habilités à les appliquer, notamment la police et d'autres services, soient suffisamment conscients que le mal est tellement profond et que l'implication de tous est nécessaire. Devant des grands mots, il faut des grands remèdes. Nous Merci. Ne pensons pas que la fermeture de frontières soit une solution, puisque nous constituons en importation tout comme en exportation avec les entreprises minières. Nous ne pouvons pas bloquer le côté économique, mais nous devons renforcer vraiment le dépistage Merci. À l'arrivée de tout voyageur, puisque nous venons de le démontrer ici. Sur les 37 cas, 26 sont des cas importés. Et nous avons eu à les dépister grâce à la vigilance, et nous continuons à vraiment appliquer ces dispositifs sanitaires aux frontières
Merci.
Et nous avons besoin de l'apport de tout le monde.
Merci Joseph Sambi, professeur et ministre provincial en charge de la santé du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Nous vous gardons aussi dans ces débats. Le moment est venu d'échanger aussi avec les auditeurs qui ne manquent pas d'émettre des avis chaque fois qu'il y a du nouveau et surtout chaque fois que l'actualité évolue. Alors, Dan Bomboko, médecin et conseiller médical du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, voici pour vous les réflexions de cet auditeur qui nous vient de Lubumbashi.
J'ai donné Bangui fils, j'interviens depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Merci encore une fois à Radio Okapi pour la confiance placée en nous. En fait, ces nouvelles mesures, c'est du déjà entendu, il n'y a pas une nouvelle stratégie pour arrêter la progression de cette maladie. Si seulement le gouvernement pouvait se focaliser sur la vaccination de la population depuis la deuxième vague, on n'aurait pas peut-être arrivé ici. Cependant, moi qui vous parle à l'instant, ici à Lubumbashi par exemple, on entendait toujours parler de la vaccination, mais je n'ai jamais vu les vaccinataires dans les milieux publics ou faire les porte-à-porte pour atteindre tout le monde. Voilà pourquoi, avec mes disponibilités liées au boulot, je n'ai pas pu prendre ne serait-ce qu'une seule dose. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement travaille sur la population qui, du reste, en a marre de ces dilemmes de Covid-19. La volonté, nous en avons, mais c'est à l'État de faire les choses avec sérieuxité pour éviter des préjugés dans les chefs de la population. Merci.
Dan Bomboko, votre réaction?
Merci beaucoup à notre auditeur qui nous contacte depuis Lubumbashi. C'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que ces mesures barrières sont du déjà vu, déjà entendu, mais il en va de ça que le gouvernement a une responsabilité, c'est de rappeler ces mesures. Nous devons le faire puisque il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité du gouvernement, effectivement, qui a édicté ces mesures, mais aussi qui a renforcé les hôpitaux pour pouvoir prendre en charge les malades, mais aussi qui a mis à la disposition de la population des vaccins. Presque toutes les sortes de vaccins qui sont dans le marché international, nous l'avons, et ça c'est grâce à la coopération et grâce aussi au leadership du ministre qui a négocié avec nos partenaires d'avoir tous ces vaccins-là. Donc ça, c'est vraiment des efforts que le gouvernement, via le ministère en charge de la santé, qui fait pour que les pays puissent avoir les moyens de se défendre contre la maladie. Mais au-delà de la responsabilité du gouvernement, il y a aussi une responsabilité collective, donc au niveau des communautés. C'est d'abord de respecter les barrières que les gouvernements édicte pour lutter contre la maladie, mais aussi d'accepter la vaccination. Et nous faisons face jusqu'aujourd'hui à une résistance de la population d'accepter cette vaccination-là. Des vaccins qui nous sont donnés via les mécanismes COVAX, malgré que nous rappelons à la population l'innocuité de ces vaccins, puisque jusque-là, on ne peut pas nous opposer des cas, des décès vérifiés et vérifiables post-vaccination. Donc les vaccins restent sûrs et l'inéquité de ces vaccins ont été éprouvés puisqu'on avait entendu le fait que ces vaccins ne pouvaient être dangereux par rapport à certaines personnes. C'est comme ça que la population ne voulait pas se vacciner. Cet argument n'est plus. On essaye de faire passer le message à travers les leaders politiques, à travers les leaders religieux, à travers les responsables communautaires, et on fait avec les ressources que nous avons et qui sont disponibles. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au point où nous pouvons faire de la vaccination porte par porte, comme le souhaite M. Lubumbashi, puisque nous n'avons pas encore mobilisé des ressources pour faire comme ça. Mais néanmoins, nous avons mis des centres de vaccination déconcentrés et plus proches des communautés. Au Katanga, par exemple, le ministre en place là-bas pourra effectivement appuyer en rappelant en fait tous les centres de vaccination déconcentrés qui sont dans sa ville, qui sont proches de la population pour que la population vienne se faire vacciner. Malgré ça, il faut aussi que la population comprenne que la vaccination, c'est pour éviter de développer les formes graves de la maladie. Donc c'est un peu pour soulager le système de santé. Mais la vaccination reste un rempart, mais ce n'est pas le seul rempart. Il faut quand même continuer à respecter les mesures barrières. Il faut quand même continuer à être responsable de la responsabilité collective, de la responsabilité individuelle peut nous emmener à mieux combattre la maladie que si on regarde que à travers les prismes et ce que le gouvernement doit faire pour lutter contre la maladie.
Alors, docteur Dan Bomboko, médecin et conseiller médical du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, il y a un certain nombre d'objectifs visés par le gouvernement avec l'actualisation de ces mesures. Il y a notamment limiter l'importation des cas infectés, limiter l'importation des variants dangereux. Ces deux premiers objectifs, apparemment, à mon avis, pourraient être atteints assez facilement. Mais est-ce que les mesures annoncées ou réactualisées le week-end dernier jouent quelque chose dans la couverture vaccinale de la population, parce qu'on a aussi vu ça comme un des objectifs de cette nouvelle campagne?
Oui, effectivement, vous l'avez évoqué, les mesures pour éviter l'importation de maladies sont des mesures que nous avons toujours déployées ici, mais que nous avons encore rappelées pour que les services en place et d'appliquer ces mesures soient beaucoup plus efficaces. Donc, par exemple, au niveau des ponts frontaliers, vous savez toutes les mesures qu'il y a par rapport à l'entrée dans le territoire national. C'est ces mesures-là qui vont effectivement nous permettre de limiter l'importation de maladies.
Merci, Dan Bomboko. Joseph Sambi, professeur et ministre provincial en charge de la santé du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Pour vous, cet auditeur de Goma.
Je suis Moïse Angui depuis Goma. D'entrée de jeu, nous avons comme l'impression que le gouvernement congolais fait du copier-coller par rapport à ce qui se passe dans d'autres siècles de la planète quant à ce qui concerne bien évidemment la COVID-19. Par ailleurs, nous craignons que ces renouvellements des mesures barrières puissent être une façon pour la police de nous tracasser. Je pense, à mon avis, que le gouvernement doit arrêter bien évidemment de nous faire et que nous devons apprendre à vivre avec la COVID.
Joseph Sambi.
Ok, merci. Je pense que cet auditeur a péché un peu vers la dernière partie de son intervention, puisque ce n'est pas le fait de faire peur. Vivre avec la maladie ne veut pas dire vivre dans l'anarchie sans respect des mesures barrières. Partout, il y a des contraintes, puisque la liberté des uns ne doit pas constituer la menace pour les autres. Nous avons dit ici que partout au monde, puisque c'est une maladie pandémique, donc qui touche toute la planète, chaque pays doit contribuer par sa surveillance à la stabilisation du monde et pourquoi pas l'éradication de cette pandémie. Le gouvernement édicte les normes, donc les mesures en matière de santé, mais les mesures d'accompagnement relèvent toujours du gouvernement, mais aussi en conjugaison avec les forces en présence. C'est ici, par exemple, que nous devons faire appel à d'autres provinces de suivre le modèle du Haut-Katanga, puisqu'il y a une semaine, nous, comme ministre de la Santé du Haut-Katanga, nous avons lancé dans un diocèse, donc dans les diocèses de Sakania-Kipushi, en présence de tous les acteurs de confession religieuse, la notion de relais institutionnel. Ça veut dire les chefs de village, les chefs de quartier, les responsables les religieux, les gens de la société civile doivent s'impliquer pour que ces mesures soit comprise par la population et qu'elle soit respectée scrupuleusement. Quand on dit on limite à 50% l'occupation des églises, les bars restent ouverts, les restaurants, mais c'est pas au-delà de cette conscience individuelle, il y a la conscience collective, mais il y a aussi des contraintes. L'État a l'obligation
Merci.
De faire respecter ces mesures barrières et aussi faire le suivi et que les gens qui utilisent leur liberté pour enfreindre à la lutte, soit sanctionnée et que nous puissions avancer.
Joseph
Donc,
Sambi,
voilà ce que je peux dire.
Joseph Sambi, vous avez entendu le premier auditeur de Lubumbashi, dans votre secteur donc, qui expliquait oui. qu'il n'avait pas, aujourd'hui encore, vu les vaccinateurs, alors qu'on invite tout le monde au vaccin. Il a peut-être tort, oui, il exagère peut-être, mais est-ce que vous pouvez rappeler à son intention et à l'intention de tous les autres qui pourraient être dans la même situation que lui, ou est-ce qu'on peut se faire vacciner dans le Haut-Katanga?
Okay. Merci beaucoup. Et là, j'aimerais répondre à cet auditeur que jusque-là, la vaccination anti-Covid était sous le mot du volontariat et qu'il y avait des points fixes de vaccination. Il n'y a jamais eu de vaccination anti-Covid porte à porte, puisque c'est une vaccination qui nécessite des préalables. On doit prendre la tension artérielle et il faut un endroit sécurisé où, en cas de réaction, ce qu'on appelle MAPI ou manifestation adverse post-immunisation, quand ça arrive, ça peut partir de plus banal signe jusqu'à des signes graves. Il faut qu'il y ait la prise en charge. Alors, le porte-à-porte n'est pas encore prise en compte, mais nous sommes en train de planifier avec le niveau national pour passer du mode de routine en mode campagne. Mais
alors,
il y aura des sites
où est-ce qu'on peut se...
dans la province du Haut-Katanga, les villes et d'autres cités. Il y a au moins 43 sites de vaccination et c'est, ça passe à la télévision. Mm-hmm. Tous ces sites-là vaccinent. Et nous avons la disponibilité de 3 vaccins, donc le Moderna, le Pfizer et le Johnson Johnson. Alors, s'il n'a pas pu se vacciner, c'est que soit c'est le doute ou alors il hésite encore puisque les sites de vaccination sont connus et le vaccin est gratuit et toutes les manifestations adverses sont prises en charge gratuitement. Donc, je veux lui dire qu'il prenne le temps d'aller dans un des centres. Et ça passe tous les hôpitaux publics et beaucoup d'hôpitaux privés vaccinent. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils puissent trouver d'échappatoire. Donc, la sensibilisation passe par tous les canaux.
Merci.
Et tous les médias sensibilisent. Et il n'a qu'à aller dans un des sites pour se faire vacciner.
Merci, ouais, ouais. Joseph Sambi. Pour vous, Jonas Tchombela, pour vous, les commentaires de cet auditeur de Beni, cette fois.
Kamboka Tsongo Kasselessel, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Ces mesures prises par le gouvernement congolais sont vraiment salutaires, car la plupart des cas de COVID-19 proviennent toujours de l'extérieur. Nous ne voulons pas revivre en République démocratique du Congo ce qu'on a vécu à partir de 2019 à cause de cette pandémie. Le gouvernement congolais doit aussi renforcer la sensibilisation à travers le ministère de la Santé pour que la population congolaise puisse encore renforcer le respect de mesures barrières et surtout pendant cette période festive où les gens ne respectent pas ces mesures. Car la population doit comprendre la maladie existe bel et bien et décime la population. Mais aussi de sensibiliser concernant la vaccination pour couper la chaîne de transmission de cette dangereuse maladie. Merci.
Jonas Tchombela, je crois que cet auditeur a dit plus ou moins ce que vous aviez déjà aussi dit dans cette émission. Mais puisque nous sommes en train de terminer, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire quel est le rôle ou les actions que vous, hein, société civile, êtes en train de jouer ou pourriez jouer pour maximiser la lutte contre le coronavirus?
La société civile reste disponible. C'est à notre gouvernement de l'utiliser et de voir dans quelle mesure on peut renforcer la communication, la sensibilisation. Là où ils ne peuvent pas arriver, la société civile peut arriver. Là où la radio ne peut pas atteindre, je crois que la voix de la société civile est possible à cet endroit-là. Donc il y a un travail énorme que la société civile peut offrir pour quand même qu'on arrive à participer à cette campagne. Nous sommes d'accord que si on doit renforcer la communication et la sensibilisation, on peut augmenter la couverture vaccinale. Et ça, c'est un travail qui doit se faire au niveau de toute la communauté. Donc, il est question maintenant d'outiller, de renforcer, d'utiliser cette société civile qui reste, qui observe, qui n'agit pas, alors que les dangers nous quittent tous. Donc, à ce niveau, nous, du moins, au niveau de la nouvelle société civile congolaise, quand un jour vous pouvez passer à nos bureaux, vous verrez les mesures qui sont prises. On n'a pas attendu que notre gouvernement puisse nous réveiller encore, mais nous le gardons de façon permanente, parce que nous savons que ceux qui viennent dans nos bureaux, parfois, il y a des gens qui peuvent être porteurs de cette maladie, ou nous-mêmes nous pouvons nous retrouver en danger. Donc c'est un travail qui doit être renforcée. J'estime qu'à ce stade, nous ne pouvons pas nous arrêter à reprendre toutes ces mesures tout le temps. Il faut maintenant faire un état des lieux rigoureux de telle manière à ce que et le gouvernement, et la société civile, et les églises, tous les leaders dans tous les secteurs, nous puissions avoir un plan de riposte sur le, au niveau de la communication et de la sensibilisation de la population pour qu'elles arrivent à accepter la vaccination. Tant qu'on n'a pas bien compris le bien fondé, tant que la communication n'est pas très bien faite, nous allons toujours pleurnicher à la radio comme à la télévision, alors que le danger est à notre porte. Mais... Donc notre travail, nous sommes disponibles pour ce travail.
Merci Jonas Tchombela, coordonnateur national de l'organisation citoyenne La Nouvelle Société Civile du Congo. Joseph Sambi, professeur et ministre provincial en charge de la santé du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Nous sommes en train de terminer cette émission. Alors, vous l'avez entendu, les réactions, les auditeurs et la population a tendance souvent à considérer que les mesures sont faites pour imiter ce qui se passe en Occident, ou bien à l'approche des fêtes, on essaye de tout faire pour limiter le mouvement des gens. Alors pour tout cela, qu'est-ce que vous pouvez dire en très peu de mots comme invitation à participer à la protection générale contre cette maladie?
C'est partie des pays de la planète, donc nous ne pouvons pas vivre comme étant sur une autre planète. Cette maladie touche l'humanité et nous suivons de près les recherches et nous ne vivons pas en vase clos et donc ce n'est pas une imitation et nous vous disons ici par exemple, nous avons toujours considéré que entre les vagues, il se passe entre 90 à 100 jours entre les vagues. Donc c'est une manière d'apprendre puisque nous devons toujours apprendre de la nature. Et souvent, ça commence à l'extérieur et ça nous touche. Et donc, nous prenons les mesures consécutivement à l'évolution de la maladie. Et nous l'avons dit devant des grands mots, il faut des grands remèdes. Donc, ici, on parle du variant Omicron qui alerte le monde entier et nous ne devons pas rester en marge. Nous adaptons notre manière d'agir face aux nouvelles réalités de cette pandémie.
Merci,
et c'est ici aussi que nous voulons rappeler que le niveau national doit prendre encore des mesures pour ne pas libéraliser les tests des voyageurs à tout le monde. Toutes les cliniques, toutes les maisons ne doivent pas tester les voyageurs au risque de ne pas capter ces données et au risque de participer à la généralisation de la contamination. Donc il faut que les structures étatiques puissent prendre le lead, puisque la surveillance épidémiologique est du ressort de l'État et non des privés.
Merci. Merci Joseph Sambi. Dan Bomboko, médecin et conseiller médical du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, il y a toute une liste, toute une panoplie de mesures barrières et complémentaires pour lutter contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Il y en a donc nombreux. C'est pas évident de les faire toutes appliquer. Comment, en très peu de mots, pour conclure aussi avec vous, le gouvernement compte-t-il se prendre pour assurer l'efficacité de toutes ces mesures?
Bon, je pense que lors de la dernière réunion, nous avions vu le ministre de la Santé avec le ministre de la Formation, mais aussi avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui ont travaillé ensemble dans le cadre de renforcement et de l'actualisation de ces mesures. Donc pour nous, le fait est que le gouvernement, à travers le ministère, a édicté ces mesures. Maintenant, il appartient aux provinces de pouvoir prendre des mesures complémentaires et des services d'appui comme la police, la justice, pour appréhender tous les contrevenants à ces mesures. Donc c'est aussi à travers ces services d'appoint dont nous avons sollicité l'accompagnement, qui vont aider cette fois-ci à pouvoir renforcer l'observance de ces mesures.
Merci à vous tous d'avoir participé au numéro de dialogue entre Congolais de ce soir. Alors, se laver les mains régulièrement, porter les masques et observer la distanciation sociale sont parmi les principales mesures barrières qu'il faut respecter. Et il faut respecter toutes les autres mesures édictées par le gouvernement. Polydor Basunga et Guimaté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba. laissez-moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.